l'une travaille la viande, l'autre fait éloge de la véhémence, carcasse, colère, cadavre, coupe, découpe et littérature de combat. Aujourd'hui, deux poètes et un troisième, avec Liliane Giraudon et Jean-Marie Glaise dans les pas de Denis Roche.
La compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Liliane Giraudon, Jean-Marie Glaise, bonjour, bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Il sera donc question de viande aujourd'hui, de viande et de travail, de poésie évidemment, de son interruption, de son dépassement et de pratiques mobiles. Mobiles comme Denis Roche, poète, écrivain, traducteur, éditeur, photographe, disparu en septembre 2015 et dont vous restituez la radicalité, Jean-Marie Glaise, dans un livre justement titré Denis Roche, éloge de la véhémence, paru aux éditions du Seuil. Et puis mobilité des genres, poésie, conte, correspondance, théâtre, à l'image des textes que vous montez en un livre, en un recueil, Liliane Giraudon, titré Le travail de la viande, paru chez POL. Et ça tombe bien, de la viande, en voici.
Il lui aurait fallu consentir à ne pas être, mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être. C'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os, ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os. Et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde, ou plutôt... Il a désiré la merde et pour cela sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossement, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Oresh modo, to edire, ida. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué, ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans. Là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland.
La voix d'Antonin Artaud, bien sûr, la recherche de la fécalité, 1947. Qu'est-ce que ce texte-là, Liliane Giraudon, vous dit pour que vous l'ayez choisi? Le combat, d'abord?
Cette histoire de viande, ce titre, en fait, moi je l'ai trouvé... En fait, c'était pas ça le titre initial. Le titre initial, c'était un très mauvais titre. C'était la disparition, je crois, la disparition des oiseaux. Puisqu'effectivement, le fait que les oiseaux et les chants d'oiseaux disparaissent, pour quelqu'un comme moi qui suis d'origine paysanne, c'est un effet direct de viande circulante, ailée, liée peut-être à une idée de l'archange et la disparition de certains éléments vivants inséparables de nos corps me posait question. Et je suis descendue dans une boucherie près de chez moi et j'ai vu une étiquette sur les recherches d'emploi. qui est un problème actuel important, je crois, dans notre société. Et c'était le travail de la viande, et c'était des propositions pour des apprentis garçons bouchers. Et je me suis dit, mais moi qui cherchais un nouveau titre, il m'est donné tout simplement dans une boucherie. Et Artaud, pour moi, c'est le... Je pense que c'est ça. Lui, il est incarné, sans on le dit presque d'un angle incarné, dans la limite et dans la, justement la véhémence et la... Et je dirais presque une posture exemplaire, inatteignable, intenable. Voilà. La poésie, un peu ce que pour moi, la poésie, elle n'est pas inadmissible, elle est intenable. Et pourtant, elle appartient à la langue. Et ce travail de la viande qu'il faut y faire, il est effectivement culpabilisant, puant, difficile. Mais il faut le faire. Et c'est pour ça qu'on est effectivement dans un travail où on se salit les mains, comme les bouchers sont couverts de sang quand ils décarcassent du bétail. Et je pense que le travail des artistes, c'est un sale boulot. Et c'est pour ça que Artaud est exemplaire, parce que il a payé très cher, je veux dire. C'est pour ça que Artaud est de l'ordre de l'inatteignable, ou Emily Dickinson. J'y pense aussi parce qu'en ce moment, je lis un travail de Susan Howe sur Emily Dickinson. Et je sais qu'on a nettoyé les manuscrits d'Emily Dickinson. On les a nettoyés au niveau, par exemple, de la ponctuation, de l'état du manuscrit. C'est-à-dire qu'on a les textes qu'on a d'Emily Dickinson ont été nettoyés. Et je pense que les hommes nettoient. Du côté, alors que ce sont les femmes qui font le ménage. Et ça, c'est deux pratiques différentes. Et en ce moment, j'essaie d'écrire en me posant la question, que font les femmes à la poésie, au sens de faire quelque chose sur un corps? Et c'est très intéressant, parce que c'est presque... c'est très difficile comme question, parce que la poésie française, par exemple, est une des poésies les plus misogynes qui soit par rapport à, je pense, à la russe ou à l'anglaise.
C'est une question d'écriture, os et viande.
Oui, c'est une question de langage. C'est d'ailleurs curieux qu'en français, on ait le même mot pour désigner cette partie à l'intérieur de la bouche. Qu'on peut manger d'ailleurs chez certains animaux, et le langage. On dit la langue pour la même chose. Et je pense que on ne peut. Enfin, ce qui fait notre différence avec la part animale de nous-mêmes, c'est cette histoire de langage. Et c'est là où on doit travailler. Tout à l'heure, par exemple, Jean-Marie, quand il est rentré dans le studio, on parlait de grève, parce que pour se déplacer, il fait grève. Il faisait pas soleil ce matin, mais il fait grève, effectivement. Je me dis aussi qu'actuellement, à France Culture, il y a des grèves importantes et sans doute nécessaires. Et on se demandait, nous sommes là, nous sommes des poètes, et les poètes font peu grève actuellement, ce qui est un peu... Donc on est des jeunes sans gilet, mais je disais aussi voilà. Je pense que le poème, il a à débattre de tout ça, de toute cette présence, ce présent. Oui. Alors, par rapport à la langue, c'est ça. Je reviens sur ce que j'avais perdu. Jean-Marie me disait que le président Macron avait écrit un livre qui s'appelait Révolution. Et peut-être que le travail de la viande, ça consisterait effectivement à déminer tout ça et à se rendre compte qu'il existe quand même un travail mortifère dans la langue actuelle qui repose, mais vraiment sur des énoncés infiniment graves, c'est-à-dire un rap de certains mots et une défiguration de certains mots. Et peut-être que le travail du poème, de manière pas frontal nécessairement, doit participer à cette urgence de rendre visible un certain mensonge, finalement. C'est appeler les choses par leur nom, mais ouais. Quel nom, quelle chose.
Le travail de la viande, ce sont 7 textes, Liliane Giraudon, un conte ou un souvenir de conte, avec une histoire de jeune fille aux mains coupées, des phrases, un découpé au ciseau, une tragique comédie marseillaise, une lettre à Pierre Reverdy, un poème, un scénario pour Hélène Bessette, et puis au centre, un poème, un long poème, un sombre poème à Meyerhold, qui s'appelle « Fonction Meyerhold », que vous placez vraiment exactement au centre et qui s'adresse au dramaturge et metteur en scène russe hein, qui a été assassiné pendant les purges staliniennes en 40. Pourquoi fallait-il le placer là, au centre? Alors même si vous dites qu'on peut entrer comme on veut, entrer et sortir comme on veut dans ce montage de texte, pour autant sa place est assez précise, hein, entre une pièce de théâtre et un fragment de poème. Qu'est-ce qu'il distribue, ce poème-là? Qu'est-ce qu'il marque?
Ben, il marque la forme poème avec la coupe, le blanc, le prélèvement, mais de manière peut-être un peu plus traditionnelle, je dirais, dans la mesure où les morceaux se distribuent. Et puis aussi parce que il a été écrit dans un état peut-être de, à la fois de précision et de précarité, et presque de, alors ce mot est assez comique, presque d'inspiration. C'est-à-dire que j'ai retrouvé derrière une bibliothèque un gros livre de Meyerhold, Les écrits sur le théâtre, il y a plusieurs tomes, un tome totalement annoté de ma main au crayon, qui avait 25 ans ou 30 ans avant, j'étais très étonnée parce que je n'ai aucun souvenir d'avoir lu ce livre, ni de l'avoir annoté de manière aussi précise, et en vue de quoi, en vue de quel travail. Et bon, comme je commence un peu à perdre la mémoire, ça m'a beaucoup troublée. Donc j'ai relu Meyerhold, j'ai relu aussi pas mal, j'ai relu Klemnikov, enfin la Russie de cette époque-là, et j'ai décidé de lui adresser une lettre. C'est venu sous cette forme-là.
Est-ce que vous voulez bien nous en dire un extrait de ce poème « Fonction Meyerhold » de Liliane Giraudon?
Ça commence par une citation prise effectivement dans Meyerhold. « Je travaille tout à fait comme Mayakovsky. Son crâne lui servait de carnet. Son entrepôt était toujours rempli, non parce qu'il faisait le plein, non, ce n'était pas ça. Il s'agissait tout simplement d'un processus. Le plein se faisait automatiquement. » C'est ce que tu te tuais à leur répéter. Pour toi, le poète était une espèce de sismographe qui éprouvait les secousses du sol. Et c'est vrai que nous écrivons avec nos pieds. Obscurément, je l'ai toujours su, même lorsque dans ma jeunesse, il m'est arrivé de porter des talons qu'on appelait aiguilles. Combien d'années d'entraînement, les fragments pour l'entrepôt, passe des pieds jusqu'à la cervelle, combien de migraines et parfois d'insomnie pour cette accumulation muette, la plupart du temps invisible. Parce que oui, on peut le dire, souvent la chose se fait sans nous, dans notre dos ou sous nos pieds, et si elle ne s'accomplit pas, le poème demeure un simple petit ossement décoratif, déposé là et sans usage.
Merci. Liliane Giraudon, ce poème à Meyerhold, c'est aussi une façon, il n'y a pas que ce texte hein, dans le recueil, mais c'est aussi une façon de vous mettre en scène et en jeu comme lectrice, au fil des saisons même, j'allais dire, hein, que vous précisez en général, comme braconneuse, comme voleuse même, hein, c'est le terme que vous employez dans votre lettre à Pierre Reverdy, avec cette idée que lire, ça serait écrire, bien sûr, mais ça serait écrire, ça serait voler, piller même, voire piller et oublier sont les termes que vous employez ou quelque chose comme ça. L'écriture, ça serait ça pour vous aussi ou en tout cas prélever?
Oui, c'est braconner, c'est prélever et c'est aussi être imprégné dans l'oubli et refaire travailler des langues qui nous ont traversées en les régurgitant, mais c'est passé par un autre corps, c'est tout. Et c'est là où peut-être le masculin et le féminin m'intéressent, parce que les identités sexuelles sont... Effectivement, la langue n'est pas sexuée, c'est évident. Sauf que les corps sont différents, et les corps mutent, transmuent, ont des identités peu fiables, vulnérables. Et la langue rend compte de ces incertitudes, de ces non-assignations et de cette liberté qui est finalement de la viande qui n'est pas au repos et donc qui est de la vie et dont le langage doit rendre compte.
Chaque texte, hein, chacun de ces textes qui frappe notamment, c'est que chacun d'eux fait adresse, parfois double adresse, hein, soit que vous dédiez le texte à quelqu'un, soit qu'il s'adresse dans le texte lui-même à quelqu'un, donc je pense à Meyerhold évidemment, ou à Reverdy, hein, dans une longue lettre qui suit, soit qu'il soit même écrit en pensant à son interprète et à son metteur en scène, hein, ça c'est pour la pièce de théâtre. Ça voudrait dire que pour vous, écrire a forcément à faire avec ça, c'est-à-dire d'abord avec l'adresse, ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps?
C'est nécessairement une adresse, parce que on est très seul quand on écrit, mais on s'adresse. La preuve, si on parle, même si on parle seul, on peut parler à des morts. Moi, j'avais une grand-mère que je croyais folle, enfin folle. Je me disais elle est folle, parce qu'elle me disait toujours « moi, je parle à mes morts ». Et maintenant, à bientôt 75 ans, je me rends compte que je fais la même chose. Je parle à mes morts. Donc, ce sont des adresses aux vivants, aux morts. Et peut-être que l'écriture a à voir à quelque chose avec ça. Cette traversée par rapport à une mémoire du monde, de la langue et des éléments. Même des animaux, puisqu'on peut parler aussi à un animal.
Alors, on parlait, Liliane Giraudon, tout à l'heure d'adresse, hein, de réécriture, de vol, de braconnage. Il en est un qui incarne tout ça. On l'écoute.
Pour éviter l'écueil qui se tient en arrière, qui me suit, qui attend le pas définitif, pour éviter de jamais revenir en arrière sur le flanc de l'amour qui glisse sans mourir, cet amour qui se dégage mal de tes viscères, ces regards qui n'ont plus ni rime ni raison, et ce portrait de toi que je voudrais refaire, tendre, vivant dans l'ombre sans passion, ce regard qui se perd dans la nuit jalouse, ce regard plein des pointes de feu de la poésie, dans la robe du soir dont se pare la terre au moment où tu sors. Loin dans le désespoir, j'aurai le visage enfoui dans la glace, le cœur percé des mille feux du souvenir, l'écueil de l'avenir et la mort en arrière, et ton sourire trop léger, une barrière de toi à moi, les paroles libres, les gestes retenus, des mains ailées qui avançaient pour tout ouvrir. Alors, dans la trame serrée, livide, se découvre la blessure inouïe dont je voudrais guérir.
Une affaire d'incarnation. Un bref extrait du livre de Montbord, lu par Pierre Reverdy, texte de 48. Et d'abord, une voix qui, plus que toute autre voix, nous rappelle, écrivez-vous, Liliane Giraudon, dans une lettre adressée à Pierre Reverdy, hein, dans Le Travail de la Viande, nous rappelle que la voix est un mouvement du corps. Écoutez, réécoutez la voix de Reverdy, hein, c'est ce que vous avez fait avant d'écrire cette lettre, beaucoup, à de multiples reprises, de la réécoute même. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette voix? Qu'est-ce qu'elle élucide, hein?
Cette voix, d'ailleurs, elle est extraordinaire, parce qu'elle n'est pas nettoyée par un accent standard qui nous a tous été imposé, qui d'ailleurs n'est pas très imposé chez moi, ça s'entend, qui est celui de l'accent. Voilà. Il y a cette façon de rouler les airs, alors qu'il vivait à Paris depuis très longtemps, mais il y avait des marques dans le corps, d'une origine et de langues enfouies, dépassées, par exemple pour le Sud, on va parler de l'Occitan et du Provençal, qui ont quand même été des langues, bon, comme pour le breton, il est interdit de cracher, de parler breton ou provençal, on faisait nettoyer la bouche. Moi-même, j'ai été élevée par des grands-parents qui ne parlaient que le provençal et que j'ai en partie perdu. Et donc ces traces d'effacement qu'on retrouve dans la voix de Reverdy, son souffle... Bon, j'ai appris qu'il avait fait de la boxe en plus. Donc je pense à quelque chose à voir avec cette espèce de respiration. Alors il y a effectivement l'idée de la lyrique de l'époque avec tous les symptômes, mais c'est un corps pas nettoyé. Je pense que actuellement nous sommes près d'une robotisation. Et je pense qu'on est très nettoyé dans nos différences, mais pas des différences au sens d'un individu, des différences au sens de la mémoire, d'une origine et des traces de cette mémoire. Il y a une séquence de phrases qui m'a beaucoup intriguée dans Rimbaud. C'est dans le poème Démocratie, je crois, c'est « Notre patois étouffe le tambour ». Et je pense que c'était un rapport avec la commune, et le tambour, évidemment, c'est la police, les roulements de tambour, l'armée, la police, et le patois. Et ce patois actuellement, il est en train d'être incessamment au travail, d'être étouffé. Et peut-être que la littérature et cette espèce de air qui roule dans rocailleux, cette espèce de symptôme qu'il faut effacer, parce que ça, comme on dit ici, ça marque mal... peut-être que la littérature a à voir avec ça, avec ce qu'on veut absolument nous faire oublier, nous faire effacer, ce qui sont des traces de différence, de lutte. Il faut d'une autre manière les réintroduire vivacement, viandiquement, dans les pages, dans la voix, dans la manière de se tenir.
Jean-Marie Glaise, au-delà du refus du nettoyage tel que Liliane Giraudon l'explique, quand elle dit
que c'était les hommes qui nettoient.
Absolument, oui, ça, vous l'avez bien entendu aussi. Oui. L'idée que, lorsqu'elle explique dans son texte qu'elle a mieux compris pourquoi il n'existe pas de langage parlé sans respiration en écoutant Reverdy, c'est quelque chose que vous partagez?
Oui, tout à fait, bien entendu. Surtout depuis un certain nombre d'années où tout à coup la parole nous est revenue, c'est-à-dire qu'au-delà d'un fétichisme de l'écriture qui était extrêmement dominant dans les années 70, à partir d'un certain moment, nous nous sommes mis les uns et les autres, ou les unes et les autres, à faire des lectures, à lire nos textes oralement, devant des publics, etc. Et nous avons pris conscience, je pense, enfin en tout cas, ça a été mon cas, parce que je suis passé vraiment d'une écriture muette et silencieuse à la possibilité d'articuler oralement, etc. Et donc, il y a eu une prise de conscience, évidemment, de cette dimension de l'oralité, cette dimension du souffle, cette dimension, finalement, corporelle, très concrète de la langue dans la bouche, voilà. Mais je voudrais dire quelque chose à propos de... Enfin, c'est juste un détail. À propos de la dominance misogyne de la poésie française.
Ça n'est pas un détail.
Quand je regarde la revue dont je suis responsable, qui s'appelle Gnoc, je m'aperçois que les sommaires, à mesure du temps, puisque la revue a été créée en 90, donc il y a fort longtemps, les sommaires comportent de plus en plus d'écrivaines, enfin je sais pas comment on dit, de poètes femmes, jeunes femmes, etc., qui sont issues des écoles d'art, par exemple, et qui a là toute une prolifération, enfin, de voix qui n'ont rien à voir, enfin qui ne sont pas, en tout cas, pas nettoyées du tout, si je puis dire, pas victimes du balai brosse et de l'aspirateur.
Je voudrais revenir à Reverdy, Liliane Giraudon, cette lettre poème, c'est en fait une sorte de reconnaissance de dette, hein. Vous rappelez à quel point vous lui devez à Reverdy, au point que vous lui avez emprunté d'ailleurs le titre de votre premier livre paru chez POL au début des années 80. Et pour autant, vous parlez aussi d'une difficulté à écrire sur lui, à mettre en mouvement l'écriture sur Reverdy, alors que par ailleurs, vous vous êtes livré à de multiples reprises à cet exercice, hein, des exercices d'admiration. Qu'est-ce qui empêchait cette écriture? Qu'est-ce que c'est que ce ressentiment, puisque c'est le terme que vous employez?
C'est un peu compliqué, c'est aussi cette histoire, c'est la biographie. Qu'est-ce que c'est qu'une biographie? Par qui c'est écrit? Par qui c'est réécrit? Traité, souvent la famille, les héritiers, ou pire, les accapareurs, ceux qui disent « c'est moi qui sais ce qu'il faut dire sur, et c'est moi qui suis spécialiste d'eux ». Et ça, ça s'appelle la propriété, l'appropriation, la raptation, et avec des silences. Bon, par exemple, moi quand j'ai découvert que Reverdy d'abord s'était réfugié à la fin de sa vie, après sa conversion. Donc, premier truc qui m'a gênée, j'ai travaillé sur Max Jacob, et les rapports Max Jacob-Reverdy sont assez compliqués. Et en relisant de près le roman de Reverdy, j'ai découvert quand même des connotations...
Le voleur de talent.
Des connotations limite antisémites. Alors, bon, j'en ai parlé à des spécialistes qui m'ont pris pour une folle. Donc je me suis tue. Après, je voulais écrire dessus à plusieurs reprises. Il y a eu des travaux faits sur Reverdy. J'ai dit j'aimerais travailler là-dessus. Mais évidemment, du coup, j'étais plus invitée à participer. Et il a fallu un accident, c'est-à-dire Christian Tartin, un ami, qui me demande d'écrire sur Reverdy pour une conférence. Ce coup-là, je l'ai fait. J'y suis allée. Et j'ai du coup du braconné du côté de Coco Chanel. Et quand même, je veux dire, l'impasse actuellement sur le passé pro-nazi de Coco Chanel et cette histoire d'amour. Je veux dire, quand Reverdy quittait son abbaye pour aller à Paris et qu'il l'a retrouvée, il savait très bien où elle habitait quand même pendant la guerre.
En l'occurrence, au Ritz, hein, qui était lieu de.
Qui était quand même le quartier général des nazis. Donc, il y a plein de détails comme ça, plus les dédicaces. Alors, je comprends, il n'y a pas de biographie écrite. Il était contre la biographie pour de multiples raisons. Il y a aussi le problème des origines, de naissance, de reconnaissance par rapport au nom. Enfin, il y a tout un roman familial un peu compliqué chez Reverdy. Donc, tout ça était très enfoui par rapport à qu'est-ce que c'est que la vie de quelqu'un, qu'est-ce que c'est que les actes, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on écrit, voilà. Et voilà, j'ai voulu de manière un peu pas provocante, mais simplement pour montrer la complexité de qu'est-ce que c'est qu'une existence, qu'est-ce que c'est qu'une tenue intérieure, et surtout qu'est-ce que c'est qu'un héritage. Voilà, on nettoie, mais ce sont les femmes qui font le ménage.
On y retourne alors.
Je reviens, j'insiste.
Elle insiste.
Lourdement.
Alors,
c'est un peu lourde parfois.
On va insister aussi sur la question du biographique, hein, pas plus tard que tout de suite.
Maybe the sun gave me the power, for I could swim Loch Lomond and be home in half an hour. Maybe the air gave me the drive, for I'm all aglow and alive. What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race, why it's almost like being in love. All the music of life seems to be.
Il suffit d'entendre la voix de Gene Kelly et on croit entendre un corps, ou en tout cas on le voit. 1954, Almost Like Being in Love, un extrait de Brigadoon de Minnelli. Alors c'est peut-être une inattendue entrée en matière pour évoquer le véhément Denis Roche, comédie musicale qu'il adorait pourtant, comme il adorait le cinéma en général et le cinéma hollywoodien en particulier. Preuve, s'il en est, hein, une de plus de sa mobilité. Denis Roche, poète, photographe, traducteur, éditeur, disparu en septembre 2015, auquel vous consacrez un essai, hein, Jean-Marie Glaise, aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie, celle-là même qu'il avait fondée en 1974. Et vous ajoutez à cette longue liste, Jean-Marie Glaise, à propos de Denis Roche, parfait dandy révolté, érudit désinvolte, promeneur solitaire, amoureux absolu et créateur de formes. Titre de votre livre que vous empruntez à l'un des siens, Denis Roche, éloge de la véhémence. Qu'est-ce que donc que la véhémence? Alors je me demande si on n'a pas déjà eu un petit aperçu avec Liane Géraudon, mais que cette véhémence qu'il avait faite sienne dès lors qu'il s'agit d'écrire et dès lors qu'on parle de Denis Roche.
Oui, il avait publié un livre avec le peintre Bernard Dufour en 1970, je crois, qui s'intitulait « Éloge de la véhémence ». Et il a repris ce titre, c'est l'un des chapitres de son dernier livre de poésie qui s'intitule « Le Mécrit ». Ce chapitre 8 du « Mécrit », je crois, est intitulé « Éloge de la véhémence ». Autrement dit, il y tenait. Et enfin, c'est un beau titre, mais ce n'est pas moi qui l'ai trouvé.
Qu'est-ce que c'est que la véhémence, alors?
C'est un ensemble d'attitudes, de comportements, y compris de comportements verbaux, d'écriture, qui implique une certaine obéissance à une pulsion physique et voilà quelque chose qui monte et qui finalement éclate dans un certain nombre de gestes et de posture dans des situations diverses. Alors ça peut être une réaction politique ou une réaction amoureuse ou une réaction textuelle, etc. Voilà. Et Denis Roche est fondamentalement non pas quelqu'un de calme et de posé, mais quelqu'un de véhément. C'est vrai que dans Véhémence, il y a également cette espèce de contre-lyrisme qui est le lyrisme spécifique de Denis Roche, l'emportement verbal, hein, qu'on voit notamment à l'œuvre dans ce livre qui s'intitule Louve Basse.
Son roman, voilà. Louve Basse. Alors Véhémence qu'on entend.
Son roman Louve Basse.
Qu'on entend sans nul doute ici.
Ça a l'air très simple comme ça de faire le provocateur, mais. C'est pas si simple que ça en poésie, parce que vous ne pouvez pas provoquer en poésie. C'est impossible. Quoi que vous écriviez, c'est automatiquement perçu par les autres comme poésie, donc vous êtes de leur côté, donc vous ne pouvez pas être l'ennemi. Et pourtant, il faut arriver, tout en écrivant visiblement de la poésie, c'est-à-dire que le mot poésie, sous le titre que vous avez donné à votre livre, sur la couverture, soit réellement lu et ressenti comme tel par les poètes, il faut que vous soyez tout de même ressenti comme l'ennemi, et comme l'ennemi à abattre. Alors évidemment, comment peuvent-ils vous abattre? Ils peuvent vous abattre en disant « Ah tiens, voilà un poète comme les autres, un peu mieux, un peu plus malin, un peu plus original, mais c'est un poète comme les autres. D'ailleurs, voyez, tel autre écrit un peu comme lui. D'ailleurs, voyez, il a des disciples. D'ailleurs, voyez, son dernier livre a un tirage de tête. D'ailleurs, voyez, il a fait un livre de luxe. » Eux peuvent toujours pervertir le jeu. Alors il faut que votre propre perversion soit suffisamment violente et exhibée comme telle pour que ce soit quand même cette violence-là qui l'emporte. En somme, il faudrait, relevant cette chose-là, cette constatation-là en termes plus politiques, parce que c'est quand même aussi de ça qu'il s'agit, il faudrait un peu en revenir, parlant du statut de la poésie, à ce que disait Brecht. La question essentielle, disait Brecht, est celle-ci. Comment pouvons-nous devenir des bêtes dans un sens tel que les fascistes craignent pour leur domination? Comment avoir, nous, écrivains, une écriture qui tue? Et je crois vraiment que c'est de ça qu'il s'agit.
La voix de Denis Roche en 77 au micro de Gérard-Julien Salvi sur France Culture. Une écriture qui tue, c'est de ça qu'il s'agit, Jean-Marie Glaise?
Ben, apparemment, c'est du moins ce que pensait Denis Roche ou ce que croyait Denis Roche. En tout cas, c'était son intention, si on peut dire, son intention de... Donc cette figure de résistant qu'il voulait se donner, y compris se donner à lui-même d'abord, de résistance violente contre la violence extérieure de cette société qui effectivement glisse vers des choses qui, là, dans la bouche de Brecht, s'appellent fascisme, mais qui, pour nous, ressemble également à... Enfin, commence à ressembler à cela, selon moi.
Jean-Marie Glaise, est-ce que vous voulez bien nous lire le premier paragraphe de votre livre ?
Oui. Ce premier paragraphe a un rapport avec la question, justement, du biographique. Parce que j'ai vu que l'éditeur avait indiqué que ce livre... Sur la couverture,
ah oui, il y a marqué biographie. Effectivement, je viens de le voir à l'instant. Oui, oui.
Tout à fait. Alors bon, moi j'ignorais que j'avais écrit une biographie de Denis Roche. J'ai écrit un livre sur Denis Roche et je savais qu'il se méfiait évidemment. Le biographique est extrêmement présent comme matériau dans son travail, mais je crois que la biographie linéaire, la biographie proprement dite, enfin comme genre littéraire, ça n'était pas son truc, hein, pas du tout. Et voilà. Et donc j'ai essayé de rentrer dans ce livre en respectant d'une certaine manière sa façon, certainement de ne pas vouloir être biographisé. Je savais que je lui faisais de la peine en écrivant une biographie de lui ou sur lui, et voilà. Donc le texte initial s'intitule « Un parc ». Quel est cet homme qui marche, seul, dans la rue ? On le voit de dos, de trois quarts, vêtu d'un costume sans doute gris, un peu fripé. Ses cheveux sont plutôt longs et déjà blancs. Il semble savoir où il va. Il regarde droit devant lui. J'ai conservé dans le fatras de mes dossiers une série de 7 photos noires et blancs que m'avait donné une amie. Elle avait croisé cet homme par hasard et l'avait reconnu. Il s'agissait de Denis Roche. Elle l'avait suivi sans qu'il le sache jusqu'au jardin du Luxembourg. La deuxième photo de dos cette fois le montrait marchant, une main dans la poche, dans une allée entre les grands arbres et les bancs de bois. Sur les 4 photos suivantes, on l'observe assis sur une de ces chaises fauteuils métalliques du jardin, face à une sculpture et à l'épaisseur végétale. À sa droite, une cage emplie de feuilles mortes. Nous sommes peut-être vers la fin de l'automne. Il regarde ou il rêve. Il s'est retiré dans une parenthèse. La photographe s'approche de plus en plus de lui. Sur la dernière photo, il n'y a plus que le paysage, la lisière du jardin, les grilles, les immeubles de l'autre côté de la rue. Denis Roche n'est plus là. Il est sans doute encore sur sa chaise, hors du temps. En promeneur anonyme, plongé dans sa rêverie solitaire, c'est ainsi que je voudrais qu'il entre dans ce livre, qu'il y entre à son insu.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manon Farid.
Qu'est-ce qu'il faut savoir, Jean-Marie Glaise, malgré tout, avant de rentrer dans le vif de l'écriture, j'allais dire, qu'est-ce qu'il faut savoir malgré tout de ce matériau biographique ? Par exemple, quand il rejoint Tel Quel en 62, hein, il a 25 ans à peu près, il publie Frontières amazonides, donc en tout cas ce que lui considère comme étant son premier texte, hein, qui figure dans sa bibliographie. Qui est-il à ce moment-là ? D'où est-ce qu'il vient ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il attend de la poésie à ce moment-là ? Vous qui dites qu'il est peu d'œuvres aussi stratégiquement déterminées que la sienne.
Ben oui, mais alors on va dire que le premier texte ne peut pas témoigner véritablement de sa stratégie. Cette impression de stratégie que nous pouvons avoir par la suite. Alors, avec Tel Quel, Denis Roche, enfin, moi c'est comme ça que je l'ai connu, hein, en lisant cette revue. Je suis très amateur de revues, si. Et je dirais que je me suis formé aussi littérairement à côté et contre d'une certaine manière l'enseignement académique et universitaire en lisant les revues. Alors il s'agissait de la revue Change, mais surtout pour moi de la revue Telle Quelle. Donc c'est là que j'ai découvert la poésie ou l'antipoésie ou la poésie critique de Denis Roche, qui m'a immédiatement parlé dans la mesure où pour moi c'était un prolongement. J'ai entendu tout à l'heure que Liliane les mettait un peu dans le même panier, peut-être dans le même panier misogyne, enfin des nettoyeurs, Francis Ponge et Denis Roche. J'ai commencé par lire plutôt Francis Ponge et j'ai perçu que Denis Roche était en quelque sorte un continuateur radicalisant du geste critique de Francis Ponge. Et c'est ça qui m'a, on va dire, séduit ou interpellé, et voilà.
Ponge qui écrivait donc au moment du départ de Denis Roche, hein, du groupe tel quel en 74, qu'il va quitter un peu brusquement, hein, donc il va y rester de 62 à 74. Ponge qui écrivait, il y avait donc dans le groupe en question un filon dynamique, étincelant et rapide, rieur, actif, sans pontification, c'était lui. Donc ce groupe tel quel, hein, dont il faut peut-être rappeler, hein, côté de Solers bien sûr, mais aussi Plénet, Kristeva, etc. Donc sont des années de débat, de véhémence justement, de querelles. Probablement que c'est aussi ces années-là qui nous éloignent un petit peu aujourd'hui de Denis Roche, hein, on va peut-être reparler de l'actualité de Denis Roche aujourd'hui, mais probablement que ça fait partie des choses qui nous ont éloignés de lui. Qu'est-ce qui se trouve alors sur la table? Quels sont les débats en cours à ce moment-là, dans ces années-là, au moment où Denis Roche arrive sur cette scène-là?
Oui, il se passe beaucoup de choses parce que c'est des années d'intensité théorique et théoricienne, de sémiologie des paragrammes et de que sais-je encore. Ce qui est au fond, c'est difficile. S'il fallait tirer un seul fil. C'est la tentative du groupe pour élaborer une théorie de quelque chose que l'on tente d'appeler le texte. Et cette notion de texte, elle était destinée à produire un dépassement, disons, des genres institués, des genres hérité. Alors, il est possible que cette histoire soit un peu tombée à l'eau après la tentative néo-romanesque. Voilà, il n'y a pas eu de nouvelle poésie, mais la nouvelle poésie, enfin, ou du moins la tentative poétique de Denis Roche sur quatre ou cinq livres, cette tentative, elle se comprend à l'intérieur de ce projet, en quelque sorte, de dépassement des genres. Alors, pour Denis Roche, la chose s'achève par une sortie, une tentative de sortie hors du manège poétique, hein, voilà, et la continuation de la poésie peut-être par d'autres moyens.
Peut-être. Je me permets d'intervenir. Il y a dans cette équipe, il y a quelqu'un qu'on a pas mal effacé, je trouve.
Rothenberg?
Non. Alors lui, n'en parlons pas. C'est pas un effacement, c'est un
disparition.
C'est une incinération. Non, je pense à Marcelin Plénet et je pense à un livre de poésie qui justement éclaire ces histoires de nettoyage. Parce que on pourrait dire, moi, à propos de nettoyage, on pourrait dire blanchir. Et ce titre, c'est Provisoirement des nègres, qui est un livre de poésie comme Stance, qui moi énormément m'a beaucoup beaucoup impressionné à l'époque.
À l'époque.
Vous parliez, Jean-Marie Glaise, de sortie, hein, alors peut-être de sortie pas tout à fait improvisée, hein, parce qu'on peut envisager effectivement tout ça comme le dénouement d'une démonstration ou d'une stratégie. Ce sera avec Mécrit, en 72, hein, que Denis Roche prend congé de la poésie, ou en tout cas du livre de poésie, hein, pas de la poésie. Au fond, alors on a beaucoup parlé, hein, de cette interruption, de cette suspension qui vient après son fameux « La poésie est inadmissible », hein, qui va compléter en 68 par « D'ailleurs, elle n'existe pas ». Avec quoi s'agissait-il d'en finir? De quoi fallait-il délivrer la poésie, enfin, en deux mots, au fond, qu'est-ce que dit cette interruption qui n'est pas un renoncement?
Oui, bon, enfin, là aussi, j'ai eu du mal à répondre à cette question parce que. Non, mais je veux dire que la poésie dont il s'agissait de se débarrasser, elle est toujours extrêmement présente aujourd'hui et extrêmement, d'une certaine manière, extrêmement dominante. C'est l'idée dominante qu'on se fait de ce qu'est ce genre qui obéit à un certain nombre de contraintes héritées. C'est une certaine forme d'expression personnelle, de lyrisme, de sucrerie, diversement assaisonnée, dans des formes convenues et y compris des formes modernes convenues. Je veux dire que une certaine forme de vers libre standard participe de ça.
Qu'est-ce qu'il a cru liquider alors?
Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ben, il a en tout cas indiqué qu'il fallait se dégager en quelque sorte de cela. Et il a tenté d'exhiber les conventions de ce genre, donc par un certain nombre de gestes typographiques et voilà, jusqu'au mécrit, il a considéré que sa démonstration était achevée, était complète d'une certaine manière et que l'on pouvait passer à autre chose. Et donc, en effet, moi, je considère que l'ensemble de l'œuvre écrite de Denis Roche après la poésie, je considère cet ensemble-là comme la continuation de la poésie par d'autres moyens que ceux de la poésie.
Vous pensez à la photographie ou vous pensez par exemple...
Je pense ensuite, non, je pense
d'abord... Vous pensez à Dépôt de savoir et technique, par exemple, ou Louve Basse?
Je pense à Louve Basse, et voilà, je pense d'une part à ce pseudo-roman qu'est Louve Basse, et d'autre part à cette proposition formelle, expérimentale, que sont les Dépôts de savoir et technique. Donc, continuation de la poésie par d'autres moyens que ceux de la poésie, et ensuite... la photographie comme continuation de l'après-poésie par d'autres moyens que ceux de l'écriture, voilà.
Et donc c'est pas Denis Roche, l'un écrit, l'autre photographie.
Non, certainement pas. C'est plutôt comme je l'avais proposé pour un colloque, mais Denis Roche m'avait refusé ce titre qu'il avait donné pour un entretien, c'est « J'écris, donc je photographie ». C'est-à-dire que les deux sont pour lui tout à fait inséparables.
Dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui les rendrait si inséparables? Qu'est-ce que ce serait que ce rapport de conséquence?
J'écris, donc je photographie, c'est quelque chose que vous pouvez... constaté par exemple en lisant les essais de littérature arrêtée. Les essais de littérature arrêtée, c'est un journal, on va dire entre guillemets intime, qui a pour caractéristique d'être essentiellement constatif, descriptif, extrêmement peu interprétatif, avec très très peu de commentaires, très peu d'arrêts sur le sens des événements ou des choses ou des paysages ou des postures qui s'y déploient. Et on pourrait dire qu'il y a là la tentative pour produire, inventer quelque chose comme une écriture photographique. Ensuite, il considère en effet la photographie comme une forme d'écriture. Et donc, les deux sont reliés, notamment par la notion d'acte, c'est-à-dire que Denis Roche est principalement, il considère dans la photographie principalement l'acte photographique, c'est-à-dire l'acte de la prise, de la captation du réel.
Plus que l'image, au fond.
Oui, d'abord plus que l'image. Bon, et c'est vrai que la pratique photographique de Denis Roche se développant au fil du temps, il va davantage considérer l'image comme telle, hein. C'est-à-dire attacher de l'importance à l'image, alors qu'au départ, il n'attachait pratiquement aucune importance à l'image, enfin, ou presque pas, mais surtout de l'importance au moment de la prise et au fait de la prise, de l'acte photographique. Si bien qu'il a intitulé une de ses séquences « La montée des circonstances ». Alors là, c'est intéressant parce que c'est un ensemble de textes, hein, qui débouchent tous, enfin qui décrivent l'ensemble des moments qui vont conduire à la prise d'une photo.
Est-ce qu'on pourrait dire la même chose alors pour le travail de l'écriture, qu'il s'agisse du poème ou de l'après-poème, c'est-à-dire du texte en général, hein, c'est-à-dire que pour lui, ça relèverait d'abord aussi de l'acte, enfin, ou y compris d'ailleurs d'une montée des circonstances.
Absolument. Et comment dirais-je, il y a, je crois, dans le mécrit, un texte écrit pour Francis Ponge, sur une page duquel on peut lire « Je n'ai à dire que ma violente action d'écrire ». D'une certaine manière, cette formule un peu provocante, elle pourrait être mise en exergue à l'ensemble de l'œuvre. Je n'ai à dire que ma violente action d'écrire. Action, acte, voilà. C'est intéressant le mot action parce que c'était un mot qui appartenait d'une certaine manière au vocabulaire politique et politique poétique. Il y avait une revue qui s'intitulait Action poétique, importante revue. Mmh. Et Denis Roche, évidemment, utilise plus volontiers la notion d'acte en relation avec la photographie. Mais je crois que les deux mots, pour lui, se complètent et s'éclairent l'un l'autre.
Oui. On parle d'ailleurs d'acte sexuel et pas d'action sexuelle.
Oui, on parle d'acte sexuel. En effet.
Alors on va s'arrêter là, ça me semble tout à fait indiqué. Jean-Marie Glaise, Liliane Girodon, c'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Et cette séquence n'aura jamais été aussi littérale, hein, puisque vous vous trouvez tous les deux à Aix-en-Provence, dans les locaux de France Bleu Provence, et moi à Paris. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire, Liliane ? Lorsqu'on s'est rencontrés tout à l'heure, on a commencé par parler de notre passé aixois. Aujourd'hui, nous n'habitons plus ni l'un ni l'autre à Aix, mais c'est là qu'on s'est connus il y a, je sais pas, combien de temps, 40 ans, voilà. Donc on était beaux et jeunes, et on était déjà en train, tous les deux, de faire des revues de poésie.
Voilà. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, je trouve, dans le corps de Denis Roche, c'était quelque chose de... Quand on le voyait, qu'on parlait avec lui, qu'on le regardait manger, hein, cette façon d'habiter son corps. C'est quelqu'un qui habitait totalement un corps. Et je me souviens à Cogolin, Balestrini l'appelait en riant le joufflu.
Oui.
Parce qu'il avait des joues un peu rondes et qu'il aimait manger. Je sais qu'on avait mangé plusieurs fois avec lui. Mmh. Et ce côté joufflu m'a rappelé. Enfin, j'y pensais tout à l'heure, en t'écoutant, me faisait penser quand même c'était un dévorateur. Il y avait quelque chose de la dévoration, de l'ordre de la dévoration, qui, dans son texte, dégage une énergie vitale, quelque chose de très, à la fois nocturne et solaire, avec aussi. Parce que, bon, j'ai lu son journal.
Ah oui, tu as lu.
Je l'ai lu de très près.
Et donc,
écoute, il y a un côté qui m'a gênée.
Oui.
C'est le côté cascadeur du cul conjugal. Et là, il y avait un rapport... Enfin, du coup, on a un côté presque familialiste de la conjugalité. Bon, quelque chose m'a gênée, voilà.
Non, mais j'entends bien ce que tu dis. D'ailleurs, je l'ai entendu deux, trois fois... dans des bouches féminines.
Bah oui, c'est...
Mais bon, moi, je n'ai pas cette sensation-là. J'y vois effectivement une façon de dire la relation amoureuse à partir d'une relation fusionnelle physique et qui n'hésite pas en effet dans ce journal intime à produire en quelque sorte un équivalent textuel à cette relation sexuelle qui est en même temps une relation amoureuse puisqu'il ne s'agit que d'une femme, etc. Mais quand tu introduis la notion de conjugalité, on sent tout de suite une espèce de réprobation contre je ne sais quelle
unité de l'ordre
truc
familial
bourgeois qui est voilà. Oui. Mais franchement,
et c'est comme
l'amour, c'est pas forcément.
Mais je dis que c'est. Mais tu peux pas le limiter à ça. Et de même que dans la stratégie d'une économie de l'édition. Je veux dire, Denis Roche, quand même, dénonçait un système auquel il participait totalement. Je veux dire, être jury dans un prix littéraire on peut à la fois, alors, où on dénonce une certaine boutique commerciale et disons la soupe. Mais y participer de manière directe en tant que jury rémunéré, avec tout ce que ça concerne quand même de rapport à un pouvoir. Alors comment on peut être dans un contre-pouvoir en devenant soi-même un pouvoir? Ça, c'est une question qui se pose. Enfin, c'est la question que moi, je ne cesse de me poser. Comment un contre-pouvoir peut devenir encore un contre-pouvoir à l'intérieur d'un pouvoir?
With the beat forever in our mind, it gives us hope, it gives us.